7h16 minutes. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on sait que quand on va dans un restaurant, dans un bar pour regarder un match de hockey, par exemple, du Canadien, le propriétaire de l'établissement doit payer des tarifs, des droits. Et là, la facture a passablement augmenté.
Oui, à cause que, évidemment, RDS et TVA ont signé des contrats plus importants avec la Ligue nationale. Et donc, au bout du compte, on se retrouve à payer plus cher dans les établissements. Et je vais te parler ce matin d'élasticité prix. C'est un concept en économie très intéressant qui dit il y a un rapport dans certains domaines entre l'augmentation du prix et la demande. Je te donne un exemple. Si au coin de la rue, la station d'essence augmente le prix de l'essence de 10%, veux pas, j'ai une voiture essence, faut que je me rende au travail, les autres ont à peu près les mêmes prix, donc je suis pris avec le prix. Donc, l'élasticité prix est moins élastique que pour d'autres choses. Ici, on nous dit, les tarifs sont passés dans les bars et les tenanciers à peu près de 40$ à 500-600$ par mois pour avoir le hockey. Et donc, il y a eu des changements de comportement. Donc, il y a des gens qui ont arrêté de diffuser les matchs. Il y a des gens qui ont choisi des forfaits moins coûteux. Et il y a des gens qui ont choisi aussi de payer. Mais il y a aussi des gens qui ont choisi de tricher, entre guillemets. Tricher pourquoi? Parce qu'on dit, écoute, c'est sur Internet. Si j'ai une adresse IP ailleurs dans le monde, puis je diffuse ici, techniquement, je respecte techniquement la loi, mais je la contourne. Alors, je me suis fait un petit calcul ce matin. Je me suis dit, tiens, c'est un lien entre le rapport et l'élasticité prix. Je te donne un exemple. Si tu augmentes ton prix de 10 à 12 fois, ça veut dire que tu peux te permettre de perdre de 10 à 12 fois des clients puis arriver à peu près au même revenu. Donc, tout ça a généré, évidemment, à court terme, peut-être peu de changements, mais à long terme, il y aura une réflexion. Et là, je me suis dit, tiens, on va jouer avec la loi un peu.
Disons que pas, mais honnêtement, de payer 40$ par mois pour avoir un accès à des matchs de hockey, c'était pas cher, là.
C'était pas cher, mais 500-600$ par mois pour un bar qui, dans le fond, diffuse en arrière-plan un match de hockey, mais que, dans le fond, les gens ne le regardent pas parce que c'est le bénéfice premier de l'établissement. Cet établissement-là va laisser faire, va mettre des vidéoclips à la place. Je te donne un exemple. Disons que toi et moi, on va dans un bar, puis j'apporte mon iPad, puis que j'ai mon abonnement, on le regarde ensemble, on est deux. Nous sommes dans le bar, nous regardons la diffusion, mais nous ne payons pas comme tenanciers, nous sommes des individus. Prends 100 personnes qui vont à la cage et qui apportent chacun leur iPad et qui utilisent leur connexion Internet personnelle. Ils regardent tous en même temps le même match, mais ce n'est pas diffusé publiquement. Tout le monde paye individuellement. Mais lorsque une personne paye un tenancier et le diffuse publiquement, là, il y a une loi. C'est juste pour dire qu'avec l'Internet, c'est dur à contrôler. Combien de restaurants à Montréal tu vas, des restaurants de coin de rue, puis qu'il est marqué « Oups, satellite marche pas, diffusion Internet bloquée, je sais pas trop », qu'on paye peut-être différemment. Donc, c'est juste pour dire que quand le prix devient très élevé, il se peut qu'il y ait un changement de comportement du consommateur.
D'ailleurs, le consommateur devient ingénieux.
Ingénieux où il essaie de survivre. Et tu sais, cette guerre-là est juste née du fait que, tu sais, RDS et TVA se sont battus. Parce que, tu sais, dans le fond, RDS est arrivé par après. TVA pensait avoir peut-être acheté l'ensemble des matchs. Puis RDS dit, attends une minute, là, il y a une petite négociation locale qu'on peut faire pour certains matchs aussi. Et donc, il y a une surenchère. TVA Sport fait pas d'argent. RDS a payé le prix. Donc, au net, tout ça, on voulait le refiler au bar. Et qui va finir par payer la facture, Paul?
Le client, comme d'habitude.
Le consommateur, comme d'habitude.
Voilà. Finances personnelles, pourquoi épargner au moins 10% de son salaire brut? Ce serait la règle de référence.
Ah, ouais, fatigante, cette règle-là. Tout le monde me dit, comment je dois épargner? Mais ça dépend. Et ce matin, dans MarketWatch, il y a une réflexion. On cite une étude américaine qui dit, écoute, on a analysé des données de dizaines de millions de personnes au travers du temps. Et on a regardé les pratiques des gens. Et on a dit, écoute, si vous êtes un jeune aujourd'hui de 25 ans, selon les statistiques, vous devriez épargner 10% de votre brut annuellement si vous voulez y arriver un jour. Et on a même démontré une chose. Si tu épargnes 10% de ton brut à partir de 25 ans, tu as 30% de moins de chances de manquer d'argent à ta retraite que si tu épargnes moins de 10%. Évidemment, quand on dit 10%, c'est si ton employeur met 4%, il te reste 6 à mettre, que ce soit en REER, en REER ou dans le régime de retraite de l'employeur. Et on dit aux plus jeunes, on dit, attendez, réfléchissez au facteur suivant. vous allez vivre plus longtemps. Ces bains de valeur, vous allez faire du rendement sans risque moins payant que les gens avant. T'sais, tout le monde a un grand-père ou un père qui a dit « Hey, moi, au début des années 80, j'ai placé à 15% sans risque. » Oui, mais c'est fini, tu sais. La sécurité sociale, là, ça s'effiloche un peu. Tu sais, on impose moins le revenu d'épargne. Et ça, c'est important pour les plus jeunes. Comprenez que votre revenu de salaire est imposé en fonction du chiffre que vous voyez. Mais si vous investissez dans un immeuble à revenus ou dans des placements, dans votre REER ou dans votre CELI ou dans le RVER ou peu importe, l'imposition sur les années est moins grande parce que vous choisissez le moment de décaissement et la forme, comme le gain en capital, est imposable à seulement un taux d'imposition.
Mais ça veut dire que si j'ai, je sais pas moi, 25 ans, là, puis je gagne 30 000 par année, il faut que je mette 3 000 de côté.
Exact. Puis là, on dit aussi le coût de la dette. Comme vous êtes jeune, vous devez vous endetter davantage que les autres générations à cause du taux d'endettement des gens pour acheter une maison. Donc, il y a un coût de service de la dette qui est plus à risque. Vous devez mettre plus de capital de côté que les autres générations pour avoir la même retraite. Aussi, on nous parle des tanguis. Tu sais, on dit, tu sais, le risque d'aider soit un enfant qui revient qui dit « Ah, papa, j'ai 20 000 piastres de dette, je te l'ai en voyage à Bali » ou un parent qui a besoin d'aide. L'environnement, on vit plus vieux, on va avoir besoin de soins. Donc, statistiquement, tu sais, c'est plate, mais nous, les jeunes, en tout cas, les plus jeunes que moi, là, on doit épargner plus que la génération d'avant pour y arriver.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. 7h23.